Fred Film Radio, Festival de Cannes, France.
Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. À l'approche du 70e Festival de Cannes, je suis aujourd'hui avec le délégué général de la Semaine de la Critique, Charles Tesson, pour parler du programme de sa 56e édition. Bonjour Charles.
Bonjour.
Alors j'aime bien commencer nos entretiens annuels par en parlant de l'affiche. Elle est toujours féminine, comme la semaine, elle change de couleur. Elle fait souvent référence à un film de l'édition précédente. Et cette année, elle a été prise en salle, elle est d'ombre et de lumière.
Oui, c'est différent de ce qu'on faisait précédemment. C'est plus des comédiennes révélées par des films, puisqu'on découvre des films, des réalisatrices, des réalisateurs, mais aussi des comédiens et comédiennes. Là, c'est pour montrer un instant de joie, surtout de partage. C'est-à-dire la première fois que le film est vu et la réaction que ça génère. Puis insister aussi sur une chose qu'on aime beaucoup la semaine, qui est, je dirais, accueillir les équipes et les films, la convivialité et l'hospitalité.
Comment vous décririez la personnalité de cette 56e édition ?
Elle témoigne quand même de la part de jeunes cinéastes, y compris dans les courts-métrages, d'une sorte de prise de conscience ou de responsabilité par rapport à l'état du monde et encore plus à son avenir, qui peut être plus ou moins incertain. Donc je trouve que ça me frappe que les cinéastes soient très concernés par ça et surtout ils répondent de façon très très différente, de façon... Et c'est la variété des réponses, moins dans leur contenu que dans la forme qui nous a intéressés, quoi. Mais c'est vrai que la tonalité est assez sérieuse, grave, ambitieuse aussi, parce que c'est quand même des gens qui, si le monde les fait déchanter, ils croient beaucoup au cinéma quand même, donc ça va.
Parmi les propositions originales de la compétition long métrage, hein, parlons de celle-ci tout d'abord, je voulais effectivement vous demander si c'était le propos ou la manière qui vous frappait le plus. Et donc là, la manière est particulièrement intéressante. Alors à quel film s'attendre ? Quel geste s'attendre ? Geste de cinéma ?
Alors je dirais que dans les films plus directement politiques, dans la compétition, je dirais qu'il y en a deux, enfin plus directement au sens dans Los Perros de Marcel Saïd. Là, c'est quelqu'un qui règle ses comptes, je dirais, avec le Chili de Pinochet et les restes de Pinochet dans le Chili d'aujourd'hui, et qui s'attaque de façon, à travers un personnage féminin, pas très politiquement correct, très surprenant. C'est pas la militante qui est la sainte, loin de là, mais qui s'attaque à cette hypocrisie régnante qui fait que les puissants aujourd'hui au Chili sont les héritiers de ça et qui sont passés à travers les mailles du filet, si je puis dire. Donc ça, c'est un film plus directement politique parce que c'est tout d'un coup une cinéaste qui, je dirais, j'accuse quoi, par rapport à son propre pays et le passé Pinochet et ce qu'il en reste aujourd'hui et l'hypocrisie qui règne par rapport à ça. Donc je crois que ça, c'est un geste, je dirais, plus frontal et qui passe par un personnage féminin. Il y a le film iranien d'animation qui est un film, alors là aussi, puisque c'est l'Iran comme sujet, un régime politique, et puis surtout à travers des mentalités, des mœurs, ce qui est autorisé, une femme pour travailler, demander l'autorisation du mari, toutes ces choses-là. Mais il en fait un vrai récit. Ce qui est intéressant, c'est que si le film a été tourné avec de vrais acteurs, d'une part, ça les aurait mis en danger, eux, comme on l'avait vu pour Match Love avec l'actrice marocaine. Et puis le fait aussi que si cette réalité avait été montrée en images, je pense qu'on se dit non, c'est trop, c'est pas possible. Et du coup, l'animation crée une distance par rapport au réel, tout en faisant prendre conscience de ce qui est. Je trouve là-dessus le film réussit, et du coup, l'animation a un vrai sens par rapport à ce que ça raconte. Donc ça, je dirais que c'est des films plus directement politiques, au sens d'un pays, une mentalité, un régime politique. Après, il y a un film très éloigné de ça, mais très beau, c'est Ava, de Léa Missius, qui est un film extrêmement solaire, sensuel, lyrique, mais qui traverse l'histoire d'une jeune adolescente qui perd la vue, qui a des problèmes de vue, et qui apprend donc à marcher les yeux bandés, à tâtons, à l'aveugle. C'est une sorte d'allégorie des adultes qui lèguent à leurs enfants un monde qui va vers l'obscurité ou l'obscurantisme, quoi, parce que ça se passe dans une ville où la municipalité a basculé Front National. Donc c'est très poétique, très lyrique, mais ça dit quand même des choses de cette angoisse de l'avenir qu'on sent quand même dans beaucoup de films, quoi. Ouais. Après, oui, je sais pas s'il y a peut-être d'autres films.
Oui, mais il y a un documentaire tout simplement, oui, aussi par rapport à ça, au réel. Un
documentaire de la Calade d'Emmanuel Gras qui s'est fait remarquer avec Bovine est vraiment très très impressionnant. C'est un documentaire, c'est un vrai récit, c'est tourné en Afrique noire. On apprend en fin de film que c'est le Congo, mais ce n'était pas précisé au début. Et là, il y a un geste très fort, qui est de suivre un homme qui vit dans un village et qui accomplit un travail. Et on voit ce travail, c'est coupe un arbre, coupe des branches, fait du feu, ah oui, c'est du charbon de bois, fait ses paquets de charbon de bois, ses sacs, prend son vélo pour aller vendre en ville. Et on suit tout ce qui redonne à la fois, c'est pas seulement la beauté du geste, mais le sens du travail ou la valeur du travail aujourd'hui. C'est-à-dire le temps que ça demande, l'énergie que ça demande, ce que ça rapporte. Et effectivement, là-dessus, le film est d'une simplicité marxiste ahurissante. Tout d'un coup, il y a une conscience du temps et de ce que ça représente pour ça, qui est vraiment très, très impressionnant.
Est-ce qu'il y a des films qui sont plus liés à l'intime ? J'en ai vu un qui s'appelle La Familia. Alors, comme je ne l'ai pas encore vu, je ne sais pas. Mais...
C'est vrai. C'est un bon exemple, La Familia, parce que ça se passe à Caracas, qui est une des villes les plus violentes au monde, je crois. Et c'est une relation entre un père et son fils. Le fils est un petit caïd de cité, avec une bagarre qui tourne mal. Et lui se sent le roi du monde. Il veut rester là pour en découdre avec toutes les autres bandes. Le père a la lucidité, disons, de l'arracher à ce milieu-là, le faire travailler avec lui. Donc c'est une sorte de sauver le fils par l'apprentissage et le travail, quoi. Donc là aussi, c'est un autre film sur le travail. D'accord. Mais dans la relation père-fils et dans la façon dont lui, d'une certaine manière, le sauve. Et c'est une sorte de récit d'apprentissage, d'initiation, une transmission par le travail, avec la tension. Il y a énormément de tension entre le gamin et le père, qui est vraiment très fort, quoi.
Et il y a une autre relation que j'aimerais bien que vous nous décriviez davantage, qui vient du Brésil, qui est celle de Gabriel et la montagne.
Ça, c'est un film, jamais vu de film comme ça, qui parle de ça. Et pourtant, quand on voit le film, on se dit plus ou moins, ça dépend, tout le monde voyage. Hein. On veut toujours voyager en se disant, on n'est pas un touriste comme les autres, ou on ne veut pas être comme les autres. Et c'est l'histoire d'un... En fait, c'est l'histoire vraie, hein. C'est un ami à lui, tout quitté pour faire une sorte de tour du monde pendant un an. Lui a filmé la partie finale, parce qu'avant il était en Asie, en Afrique, bon, grimper des sommets, Kilimandjaro, qui est mort là-bas. Donc il a fait, c'est pas un film hommage, mais il a essayé de comprendre avec une très grande minutie documentaire, à partir des mails, des photos, des gens. Il a retrouvé tous les gens qu'il avait rencontrés, qui parlent dans le film, qui jouent leur propre rôle, mais qui est à la fois moins sur le pourquoi on voyage, mais comment on voyage. C'est-à-dire, c'est quoi être un Brésilien, un blanc, en Afrique noire, l'argent. Vouloir être plus caméléon que les caméléons pour se couler avec les autres sans être jamais tout à fait comme les autres. Ça parle de ça de façon avec beaucoup de force, qu'on se dit ça c'est un type comme moi, mais c'est pas moi non plus, que je pense pas être comme ça. Et le film là-dessus questionne beaucoup à la fois notre rapport au personnage et notre rapport aux autres, quoi.
Ça doit pas être évident de vous en tenir d'année en année à 7 films.
C'est vrai que on s'impose une très haute exigence, parce qu'il y a des sections. Le forum à Berlin, ils en prennent 40, par exemple. On pourrait en faire 20-30. Mais après, je trouve que, d'une part, ça oblige à faire des vrais choix, qui sont des choix par rapport à ce qui nous paraît, je dirais, singulier, nouveau, qui dessine de nouvelles lignes dans le paysage. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'en choisissant cette film, on a le temps, si je puis dire, de les bichonner, de les mettre en valeur et de ne pas les noyer. Donc on tient beaucoup aussi, en faisant des choix difficiles, à dire c'est sept réalisateurs, réalisatrices, et c'est notre choix. Surtout que l'offre à Cannes est quand même très importante. Si on en montre 20, les gens en verront la moitié ou le quart de ça. Quand il y en a 7, ils se disent « Ah, ils ont fait le choix, on va aller voir quand même ». Parce qu'ils ont fait le travail, si je puis dire, de choisir. Quand même ce choix est discuté, ça fait partie du jeu. Mais au moins, on a fait ce geste-là et on y tient beaucoup. Aussi par rapport à singulariser les films de la sélection en disant « On en a un par jour et chaque jour, vous aurez une proposition de cinéma différente ».
Et sur les séances spéciales, il y a des histoires qui s'annoncent comme très fortes. Le film d'ouverture, notamment, c'est Sicilian Ghost Story. On y reconnaît le nom de Thierry Desperetti, qui avait déjà fait les Apaches.
On a deux films sur deux îles de la Méditerranée, la Sicile et la Corse. La mafia, accessoirement. Et deux films très différents. Sicilian Ghost Story, le réalisateur avait fait Salvo, qui avait eu un grand prix de la semaine de la critique, Grand Prix Nespresso en 2013, qui lui était axé directement sur la mafia, les porte-flingues. Là, il revient avec un film, ils reviennent tous les deux, Antonio Piazza et Fabio Grassadogna, avec un film très très ambitieux, qui est inspiré d'un fait divers, mais le film ne le mentionne pas tellement, il s'en éloigne. Mais c'est un fait divers qui a beaucoup marqué la Sicile, où un adolescent avait été enlevé par des mafieux parce que son père était un repenti, donc risquait de les dénoncer. Et le film parle du point de vue de sa petite amie, copine d'école, c'est un teen movie, si on veut, qui est choquée par le silence qui règne sur cette disparition, parce que personne ne veut s'en mêler, et qui fait tout pour retrouver ce gamin. Et le film a énormément d'ambition esthétique, et arrive à mêler justement les amours adolescents, le film de mafia, le film fantastique et de fantômes, et c'est assez incroyable et vertigineux, et vraiment très très fort.
Voilà. Et celui de Peretti ?
Peretti, c'est très différent, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce qu'on a deux films français qui sont différents en dialogue, c'est celui-là et Petit Paysan. C'est-à-dire que ce que j'aime beaucoup dans le Peretti, ce que j'aimais beaucoup déjà dans Les Apaches, c'était à la fois un cinéma qui fait confiance à la réalité dans la mise en scène, par rapport à un regard presque documentaire, le jeu des comédiens, situation. On sent qu'il connaît, il est à l'aise pour restituer une réalité sous forme de récit. Là, c'est plus ambitieux, parce que c'est quand même c'est des faits réels à travers un mouvement indépendantiste, mais contre les autres indépendantistes, jugés plus ou moins comme une dérive mafieuse de grand banditisme et qui, eux, aspirent à redonner la Corse au peuple. Donc ça parle de cette utopie révolutionnaire, des gens qui ont existé, et ça retrace un peu tout ça. Donc c'est à la fois le jeu des comédiens, la façon dont c'est filmé, on a le sentiment d'être proche d'une réalité que lui connaît très bien, puis en même temps ça donne un ton qui, quand même, il y a des règlements de compte, il y a de la violence. On est dans un film de mafia, mais à la française, comme on ne l'a jamais vu, quoi. Qui n'a rien à voir avec Quai des Orfèvres, les séries qu'on voit sur Canal+, où il y a des effets de genre très identifiés par rapport au polar et tout. Le film n'en a aucun, mais c'est tellement presque la caméra brute enregistrée que ça fait froid dans le dos. Et tout d'un coup, là, il y a quelque chose de très très fort qui se passe, quoi. Donc le film a une vraie aussi ambition politique à travers le destin de la Corse, par rapport à cette dérive, comme il dit dans le film, cette dérive sicilienne possible de l'île, quoi. Donc c'est quand même un film que je pense qu'il fera beaucoup parler, parce qu'il fera du bruit, puis je trouve qu'il y a beaucoup de courage et de lucidité, je dirais, à affronter cette réalité, ce sujet. Il me fait penser à un autre film spécial, c'est Petit Paysan. Pareil, Hubert Charuel a filmé, je crois, dans la ferme de ses parents, c'est un milieu rural qu'il connaît bien, mais il ne suffit pas de connaître et de dire que tout est vrai, tout est juste, quoi. Il arrive à partir d'un paysan interprété par Swan Harlow de manière formidable. Il s'est entraîné avant, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. On croit à ses gestes. On ne pense pas que c'est un acteur qui est en train de jouer un paysan. Donc c'est important pour la crédibilité du film. Et il a réussi à travers une réalité paysanne d'aujourd'hui, c'est-à-dire la maladie dans un troupeau et puis l'obligation d'abattre tout le troupeau, ce qui est la fin pour un agriculteur. Et lui veut prendre parti de masquer cette maladie. Donc il y a presque tout un suspense à quel point on peut cacher une épidémie dans un troupeau. C'est presque du Hitchcock agricole, c'est-à-dire chez Hitchcock, c'est comment se débarrasser d'un cadavre une fois qu'on a tué. Parce que tuer chez Hitchcock, c'est difficile, puis après, il faut se débarrasser du cadavre. Là, c'est comment se débarrasser d'un cadavre de vache, filmé comme dans un suspense. C'est-à-dire, est-ce qu'il va arriver à... Est-ce que ça va se voir? Donc, tout d'un coup, il y a un vrai thriller rural à partir d'une réalité paysanne d'aujourd'hui, quoi. Et je trouve que l'articulation des deux est formidable, tout comme dans le Peretti. Donc, je trouve que ça, c'est... On a pris ceux deux-là parce que pour moi, c'est des... deux gestes nouveaux dans le cinéma français, c'est-à-dire engagement, réalité, témoigner une réalité, mais en faire un vrai récit de cinéma, et d'arriver à articuler les deux sans que l'aspect thriller genre soit plaqué et dénature la réalité et la conscience, je dirais, politique du sujet, quoi. Et je trouve que le Peretti et Hubert Charuel, là-dessus, pour moi, c'est deux exemples très forts, très forts.
Et donc, après ce parcours dont on le voit qui se promet d'être intense, vous avez choisi un film avec un titre assez sympathique, mais c'est peut-être pas un film de nounours, je sais pas. Brigsby Bear, un film américain.
Si, si, il y a des têtes de nounours.
Ah bon?
Non, c'est. Oui, il y a deux aérations, je dirais. Il y a le film japonais d'une directrice japonaise qui est Olusi, qui est aussi en compétition,
en
qui, sur des portraits de femmes, de rivalité entre deux sœurs, mais très touchant et très. Comédie sentimentale, si vous voulez, et Brigsby Bear. Oui, Brigsby Bear, j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment un film sur l'amour du cinéma. C'est-à-dire que je crois qu'il y avait dans les cassettes, autrefois VHS, c'était Truffaut qui lisait une phrase de Capra, « Le cinéma est une maladie, et le seul remède contre cette maladie, c'est le cinéma. » Et je trouve que le film est illustration de cet adage, parce qu'il y a à la fois le père biologique du héros, qui est un adolescent, enfin un adulte qui est toujours adolescent, et il y a son père de cinéma, qui le kidnappe, qui le nourrit, de film B de science-fiction, qui est interprété par Marc Hamill. Et le film est sur comment quelqu'un a grandi dans cette bulle de cinéma en dehors de toute réalité, c'est le contraire, et qui, une fois qu'il retourne à la réalité, perd pied, et que la seule façon de retrouver pied dans la réalité, c'est de faire du cinéma, quoi. Donc je trouve que c'est un bel hommage à la fois aux figures paternelles qui vous ont fait aimer le cinéma, qu'on ne veut pas décevoir, et à l'amour du cinéma, comment il se nourrit, quoi. Je trouve de terminer là-dessus, je trouve que c'est un beau message, un beau signal, quoi.
En effet, ce programme qui mêle réel et amour du cinéma et réflexion méta-cinématographique a l'air tout à fait alléchant. C'est le programme de la 56e semaine de la critique. Je vous remercie, Charles Tesson, d'en avoir si bien parlé.
Merci à vous.
Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.